Chapitre 50. Il est presque 4 heures de l'après-midi quand Agnetta conduit Hugo à la clinique dans sa Lexus silencieuse. Le soleil pâle s'est couché depuis plus d'une heure et le ciel est de nouveau sombre et bouché. Au nord, après la sortie vers Arlanda, la circulation est plus clairsemée. Il roule sur la voie de droite derrière une camionnette blanche sur laquelle quelqu'un a dessiné un cœur dans la poussière. Ce matin, Hugo a appelé Lars Grint pour lui dire qu'il voulait revenir à la clinique et qu'il était prêt à être de nouveau hypnotisé si la police le souhaitait. Agnetta a pris 10 mg de propanolol et s'est proposé de l'emmener. Bernard, débordant d'énergie, voulait écrire à propos de l'interview de Hugo et de l'intrus sur les caméras de surveillance. En chantonnant « La Donna Immobile », il est monté dans son bureau sous les combles avec une pile de biscuits au gingembre et une cafetière pleine. C'est presque irréel de penser qu'ils étaient tous les trois blottis dans la même chambre cette nuit, jusqu'à l'arrivée des agents de sécurité. Les deux vigiles ont fouillé toutes les pièces avant de venir frapper à la porte de la chambre. Bernard a ouvert et Hugo a raccroché le tisonnier près du poêle en faïence. La police est arrivée 10 minutes plus tard pour prendre le relais des vigiles et s'est entretenue avec eux dans la cuisine. Ils ont visionné les enregistrements de vidéosurveillance et photographié les empreintes autour de la maison. La fenêtre de Hugo portait des traces d'effraction et, chose étrange, l'intrus avait peint à la bombe noire une porte grandeur nature sur le mur près de la véranda. Il était 2 heures du matin quand tout le monde est parti. Bernard a balayé et nettoyé à l'eau le sol de l'entrée, souillé par la neige et la boue ramenée par les bottes des agents. Cette nuit-là, ils ont tous dormi dans la grande chambre, porte verrouillée, Hugo sur un matelas au sol et Agnetta et Bernard dans leur lit. Personne n'a rien dit, mais tous pensaient à la même chose. L'intrus n'avait pas été retrouvé et rien sur les images ne prouvait qu'il avait quitté les lieux. Jusqu'à l'aube, Hugo a eu la sensation que le meurtrier était caché quelque part dans la maison. Agnetta jette un regard vers Hugo. Il a reculé son siège passager, a déboutonné sa veste d'hiver et tient son téléphone dans la main droite. « Papa m'a demandé... Et ça me va si tu assistes à la séance cette fois-ci, » dit Hugo. « Merci. Mais tu sais, à propos du livre, même si tu as donné ton accord, tu peux toujours changer d'avis si tu ne le sens pas, » dit-elle. « Il n'y a aucun problème pour moi. On vient à peine de commencer, alors c'est toujours possible d'arrêter. » « Non, je pense que c'est une bonne idée. Et je suis content que papa soit content. Et je sais qu'il m'écoutera si je veux changer des choses. » Bien sûr. Elle met son clignotant, change de voie et dépasse un camion transportant des voitures. Le souffle provoqué par le poids lourd fait frémir la Lexus. La police essaie de joindre Olga, dit Agnetta. Elle ne répond pas au téléphone, elle n'est jamais chez elle et ne vient pas quand on la convoque pour un interrogatoire. Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Demande-t-il. Je crois que Yuna veut lui parler de la nuit où tu as fait une crise de somnambulisme chez elle.
« Ça a du sens, » soupire-t-il.
« Tu sais où elle se trouve ?»«
Non, on se parle pas beaucoup en ce moment, » répond-il en passant sa main dans ses cheveux longs.
« D'accord. Je suis désolé pour ça. »«
Ça va, » dit-il en haussant les épaules.
« Oui, » souffle-t-elle. Agnetta revient sur la voie de droite, consulte le GPS et se prépare à sortir dans 2 kilomètres.
Olga travaille pas mal dans un club qui s'appelle Red Drum. « À Yortagen, » dit Hugo d'une voix étrange. Elle le regarde juste au moment où les phares d'une voiture venant en sens inverse éclairent son visage. Ses yeux sont fatigués et ses mâchoires contractées.
« Hugo, j'aimerais te parler de quelque chose, » dit-elle en tournant vers Uppsala.
« D'accord, » murmure-t-il, posant son téléphone sur ses genoux.
« Je voulais te demander pardon pour le nouvel an dernier. » dit-elle.
Pourquoi ?
Je n'aurais pas dû te dire que je voulais t'adopter. C'était maladroit de ma part.
J'arrivais juste pas à l'encaisser, répond-il en regardant par la fenêtre.
Évidemment, je comprends. Tu as réagi normalement. Tu as déjà un père et une mère, mais et j'aimerais vraiment t'adopter ? Continue-t-elle avec les larmes aux yeux. Ce n'est pas le problème, mais... On est obligé de parler de ça. Je voulais
voulais juste te dire pardon. Parce que c'était de la vanité de ma part, pour être honnête. Je voulais être une meilleure mère que Claire.
C'est pas très dur, dit-il sèchement. Peut-être pas au début, quand tu étais petit. Tu n'avais pas d'autre choix que de te tourner vers moi. Et je me suis occupé de toi, surtout quand Bernard avait besoin d'écrire. Mais je me suis demandé si, inconsciemment, je n'en avais pas profité, parce que je voulais que tu m'aimes comme une vraie mère.
Il passe devant l'hypermarché Maxi et approche d'un rond-point. Je n'avais jamais vu les choses comme ça, mais... Je sais pas, en fait, je suis impressionné par ce que tu viens de me dire là, dit Hugo en la regardant. C'est courageux de dire tout ça à quelqu'un.
Je suis juste désolé que ça ait mal tourné, dit-elle en tournant sur la dague à Marskjølvåg.
Les troncs droits des pins défilent de part et d'autre de la route.
J'ai décidé de retrouver ma mère, dit-il soudain.
C'est bien, acquiesce-t-elle. Avant, j'étais en colère contre elle parce qu'elle nous avait laissés, papa et moi, qu'elle avait tout plaqué pour retourner vivre à Québec et se droguer tranquille, poursuit-il. Mais maintenant, j'ai envie de la voir. C'est quand même ma mère, même si elle a des problèmes de drogue.
Bien sûr, dit Agnetta.
Elle écrivait parfois qu'elle allait se soigner, mais il se passait rien, je sais pas. Je me sens tellement impuissant. Elle va mourir si elle se fait pas aider.
Agnetta lui jette un rapide coup d'œil.
Tu as eu de ses nouvelles récemment ?
Il soupire et s'enfonce dans son siège.
Ça fait bientôt 3 ans qu'elle a pas répondu.
Vous vous êtes disputé ?
Non, enfin, peut-être un peu, répond-il en déglutissant. Elle m'avait promis qu'elle serait là pour mon anniversaire, mais comme d'habitude, c'était des mensonges.
Et Bernard, il en dit quoi ?
Papa veut pas en parler. Il dit qu'elle a choisi sa vie, qu'il a appris à ne jamais lui faire confiance, qu'il supporte pas qu'elle me donne de l'espoir. Mais moi, je me dis que l'espoir, c'est toujours mieux que d'abandonner.
Il essaie seulement de te protéger.
Je sais. Il gare la voiture sur le petit parking et entre dans la clinique. Agnetta s'annonce à l'accueil et reçoit un badge visiteur accroché à un cordon noir. Hugo la guide à travers les couloirs jusqu'au bureau de Lars Grent. Il appuie sur le bouton de la sonnette près de la porte. La serrure émet un cliquetis et la plaque rose pâle portant l'inscription « Willkommen » s'illumine. Grint est assis derrière son bureau, éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur. Il porte un costume en velours côtelé, gris glacé, et un col roulé blanc.
Désolé encore d'être parti comme ça, dit Hugo, debout au milieu de la pièce. Je devais régler un truc.
Ce n'est pas grave, tu le sais bien. J'essaie simplement de t'aider. C'est une relation réciproque et volontaire.
Qu'est-ce que ça a donné avec ta veste ? Demande Agnetta.
Elle est au pressing, je crois que c'était de l'huile. J'avais regardé un tuto et fait un peu d'entretien sur mon vélo avant de venir chez vous.
Le premier dimanche de l'Avent, Grint leur a rendu visite avec un panier garni. Il ne pouvait pas rester longtemps, mais a quand même accepté une tasse de café dans la cuisine. C'est là que Bernard a remarqué des taches sombres sur les manches de sa veste.
Lars se lève et fait un geste vers le coin salon devant la grande bibliothèque. « Café, thé, chocolat ?»«
Rien pour moi, merci, » répond Agnetta.
« Chocolat, » sourit Hugo.
Grint sort du bureau et ils s'installent chacun dans un fauteuil autour d'une table basse couverte de revues scientifiques et d'annuaires spécialisés.
« C'est quoi cette histoire de veste ?» demande Hugo.
« Bon, rien de spécial. Il avait juste quelques taches. »
« C'est pas un peu cliché, ça, pour un génie ?» sourit Hugo. « Ne pas remarquer qu'il a de la sauce sur sa chemise ou de la craie sur le front. »
Lars revient avec 2 grandes tasses de chocolat chaud, recouvertes de crème fouettée. Il s'assied et demande à Agnetta si elle a changé d'avis, mais elle écarte la question en riant.
« On passe un tiers de notre vie dans une sorte de torpeur dont on ne connaît presque rien, » dit Lars.
« C'est dingue, » murmure Hugo. « 25% des gens ont des troubles du sommeil. Pas comme toi, bien sûr, mais d'autres types.
Ils dorment trop peu, mal, font des cauchemars, grincent des dents, ronflent. Il faut bien que quelqu'un commence à penser autrement. Lars Grint boit une gorgée de chocolat et de la crème se colle à sa lèvre supérieure. Au fait, est-ce qu'Agnetta peut assister à la séance ? Demande Hugo. Pour moi, aucun problème. Merci, dit-elle. Les yeux de Lars Grint se plissent alors qu'il observe Hugo. Mais je dois dire que ça m'a un peu surpris que tu veuilles retenter l'hypnose. La dernière fois, tu étais vraiment très secoué. Tu penses que c'est mauvais pour moi ? Pas vraiment. La question, c'est plutôt de savoir quel niveau d'angoisse tu es capable de supporter. Je veux retenter le coup. Eric Maria Bark est extrêmement doué. C'est une légende dans le traitement des traumatismes psychiques, même s'il a eu quelques gros dérapages par le passé.
À cause de quoi ? Demande Hugo.
Le docteur fait un geste vague de la main, comme pour balayer la question. Oublie ce que je t'ai dit. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça incroyablement intéressant de pouvoir, grâce à l'hypnose, accéder pour la première fois à tes cauchemars. Agnetta se dit qu'elle devrait creuser un peu le passé de Bark et peut-être lui demander une interview pour le livre.
Alors, qu'est-ce que tu me conseilles ? Demande Hugo.
Tu ne dois pas te sentir obligé. On peut toujours annuler. Je peux appeler Eric si tu veux.
Mais si je peux aider à arrêter un meurtrier, dit-il.
Ça, c'est le travail de la police, pas le tien. Mais s'ils ne peuvent pas avancer sans toi, peut-être que tu devrais réfléchir à leur donner une nouvelle chance, c'est vrai.
Ou alors je le fais tout de suite, comme on a dit.
Ou alors tu le fais tout de suite, acquiesce Lars en hochant la tête.